matériel ou immatériel, il entend par exemple les lignes aériennes. En revanche, et je crois que c'est important, les nœuds sont toujours matériels, gare ou aéroport par exemple. Alors, d'abord, trois idées simples pour casser le simplisme, si je puis dire, idéologique sur le réseau, parce que la notion de réseau est surchargée. J'en ai fait une critique dans mon bouquin sur qui s'appelle Critique des réseaux. Elle est surchargée d'idéologie aujourd'hui. Les réseaux, un, c'est des lignes et des nœuds ou des lieux et des liens. Et c'est les deux à la fois, parce que souvent on insiste sur les liens ou sur les flux et on n'insiste pas sur les lieux. Et c'est les deux à la fois. Deuxièmement, les réseaux, c'est au moins trois niveaux, les réseaux techniques, trois niveaux. Ils sont très hiérarchisés, que sont les infrastructures composées d'arcs et de nœuds, les flux, et puis la gestion ou la régulation de ces flux qui deviennent de plus en plus complexes. Les réseaux, j'insiste, sont très hiérarchisés parce que contrairement à l'idéologie du réseau, si je puis dire, où on a toujours l'image du réseau égalitaire, on pourrait expliquer pourquoi, et horizontal, tous les réseaux techniques sont très hiérarchisés. Et ils ne peuvent fonctionner que de façon hiérarchique. Et troisième distinction, il y a des réseaux matériels et immatériels, bien sûr, dans leurs composantes. On pourrait montrer à l'échelle de l'histoire des réseaux qu'il y a toujours une association entre les réseaux matériels, par exemple, et le télégraphe, l'automobile et la télévision. Mais ça, c'est quelque chose qu'avaient identifié les Saint-Simoniens, notamment Chevalier, Michel Chevalier, dès 1800. Le système spatial qu'il imagine autour de la Méditerranée est composé de réseaux matériels et immatériels. Et lui, il vise les réseaux financiers pour les réseaux immatériels. Alors, ces réseaux techniques territoriaux sont pour l'essentiel nés au début du 19e avec la révolution industrielle, parce qu'avant, on ne parlait pas en termes de réseaux, on n'imaginait même pas en termes de réseaux, c'est vraiment une invention des ingénieurs du 18e et du 19e, on raisonnait en termes de lignes. Et donc, ces réseaux techniques territoriaux, ce sont des artefacts complexes, hiérarchisés, je répète, superposés au territoire physique, et évidemment qu'ils anamorphosent, c'est-à-dire qu'ils transforment le rapport à l'espace et au temps, pour dire vite, un espace. Ça veut dire que c'est un deuxième territoire qui ne se substitue pas, évidemment, au premier, physique, disons, mais qui s'articule avec lui. Et je crois que ça, c'est le grand défi aujourd'hui, c'est qu'avec la multiplication des réseaux, il y a deux territoires, si je puis dire de façon rapide, qui une dualité territoriale et pas une substitution. Proudhon, à propos des chemins de fer dès les années 1850, et Kropotkin à sa suite, notamment sur l'électricité, ont associé même la structure des réseaux avec un choix de société. Pour dire simple, Proudhon dit si le réseau est centralisé, c'est monarchique, enfin la société est contrôlée monarchique. Si le réseau, la structure technique du réseau est décentralisée, alors c'est un modèle fédératif égalitaire. Et Kropotkin reprend ça et même développe ça pour faire des propositions en matière de réorganisation de l'industrie au profit, pour casser la grande industrie au profit de la petite structure d'exploitation familiale. Alors il y a quatre grandes catégories de réseaux techniques territoriaux. Il y a bien sûr les réseaux d'assainissement au 19e, les égouts, distribution d'eau, etc. Il y a les transports, la grande révolution c'est les chemins de fer, puis aériens, enfin routiers, aériens, maritimes, les réseaux d'énergie, électricité, gaz, chauffage notamment, et les réseaux d'information et de communication, successivement, si vous voulez, télégraphe, téléphonie, télédiffusion, téléinformatique, dont Internet, qui est le dernier né si on veut bien. Alors, quelques effets de ces réseaux, entre guillemets, le mot effet. Un, les réseaux techniques polarisent. C'est-à-dire, ils accentuent et ils créent même une logique gravitaire, ce qui est déjà le cas de la métropole, bien sûr. Les nœuds du réseau sont toujours matériels et ce sont des lieux d'entrée-sortie, d'accès au réseau. Et les hubs et les nœuds dans ces réseaux, aujourd'hui, dans l'aménagement, disons dans la vision de l'espace, la réorganisation de l'espace deviennent centraux. Et ces réseaux appellent une nouvelle métrique, c'est-à-dire que dans les nouveaux réseaux, notamment électroniques, c'est le coût et le temps sont plus importants que la distance. sachant qu'en même temps, il y a une inégalité dans la contraction, je dirais, des réseaux. Un exemple que prend Brunet sur un trajet Paris-New York, si on, avec les moyens les plus rapides, Manhattan-Kennedy Airport, c'est 1h30, New York-Roissy, c'est 4h30, et Roissy-Paris, c'est 1h30. C'est-à-dire que pour faire 6000 km, il faut 4h30, et pour faire quelques kilomètres, quelques dizaines, il faut 2h30. Donc il y a une inégale contraction avec les réseaux techniques. Alors, dernier élément sur les effets de réseau, les effets des réseaux, pardon, ces réseaux techniques territoriaux, évidemment, sont des structures de pouvoir. Et ça, ça a été bien montré, notamment par Thomas Hugh, dans sa thèse publiée en anglais à propos de l'électricité. Et puis, ça a été repris et développé par Alain Gras dans la notion de macro-système technique, c'est-à-dire que les réseaux techniques combinent pas simplement les éléments que j'ai décrits, mais se combinent avec des institutions politico-économiques qui sont des structures de pouvoir, exemple EDF et l'électricité. Comme la métropole est un système de concentration de pouvoir, avec un double effet qui les qualifie, un effet de taille et un effet de concentration. Par définition, ils polarisent et ils s'imbriquent réciproquement. C'est ma deuxième réflexion sur la métropole. On peut constater que la métropole moderne, au moins celle qui est née à partir du 19e, mais surtout au 20e siècle, s'est développée, et la croissance générale, avec les réseaux. J'insiste sur le mot « avec », c'est-à-dire comme instrument, si vous voulez. Si la métropole, si par métropole on entend la grande ville, c'est-à-dire la ville-mère, voire la capitale, ayant à la fois un effet de taille et de pouvoir, et en même temps d'attractivité et de répulsion, comme tu disais, inclusion et exclusion, la métropolisation, c'est le phénomène de concentration de richesses et de difficultés humaines, matérielles, informationnelles, dans les agglomérations les plus importantes. Alors, pour l'essentiel, ce sont les grandes capitales politiques et les grandes métropoles économiques, qui sont évidemment des centres de pouvoir et de puissance, à commencer par les grandes capitales boursières et financières, je vais y revenir. Si on veut regarder l'histoire de la construction de la métropole, on peut dire qu'elle s'est développée avec les réseaux, considérés comme des outils, des instruments, des moyens de développement et d'aménagement de l'aire urbaine. À la limite, la métropole moderne, on peut dire que c'est l'histoire de ces réseaux, de la même façon que la position de strates historiques, d'empilement de monuments, sur le modèle emblématique évidemment de Rome. La métropole moderne et contemporaine, c'est une sorte de superposition et d'interconnexion de ces réseaux matériels et immatériels, invisibles et visibles. Par exemple, la question centrale qui se pose dans les transports, pour les réseaux de transport, c'est l'intermodalité. C'est-à-dire, par exemple, quand on est à Roissy, de pouvoir prendre le TGV ou le RER, ou à la Défense, l'interconnexion entre les réseaux est la question centrale pour les transports en particulier. On peut dire que la métropole résulte historiquement sa construction de la combinaison incessante entre deux, toujours le géographe, c'est-à-dire celui du maillage et celui du treillage. Il dit même maillage et treillage sont les deux tuteurs de l'espace. C'est-à-dire que la ville et la métropole a été constamment séparées, reliées, si je puis dire. Séparées pour être ordonnées dans un maillage aérolaire, où on distingue les lieux, où on parcellise, où on découpe des espaces, y compris pour des raisons de propriété foncière, ordonnées, découpées, divisées. Et en même temps, la métropole ne cesse de développer le treillage réticulaire, parce que c'est celui des activités, c'est là où ça se passe. L'espace, c'est ce qui se passe, si je puis dire. Alors le treillage relie, quadrille, connecte, et le treillage vient à le maillage, mais aujourd'hui ils sont associés, ils sont indissociables. Treillage et maillage sont aujourd'hui les éléments constitutifs, je dirais, du développement de toute métropole. Et les urbanistes les plus visionnaires, si je puis dire, notamment les Saint-Simoniens, dans la deuxième moitié du 19e siècle, que ce soit Cerdà à Barcelone ou Haussmann et les maillage et treillage, c'est-à-dire ordonnancement de l'espace et en même temps interconnexion. Que la métropole est faite aujourd'hui et saturée de réseaux, de transport, d'énergie, de communication. À la limite, on peut dire que à la connexion permanente et à la circulation permanente dans des réseaux. Imaginons la panne, l'interruption, et la vie et la ville s'arrêtent. Donc il y a une grande vulnérabilité en même temps de la métropole, dans la mesure où elle est devenue un réseau de réseaux, si on veut cette image, ce que Dissler et Bressan appellent réseau police, la ville des réseaux, c'est avec un phénomène particulier qui est la concentration de l'activité des services dans les hubs, dans les nœuds matériels. Par exemple, l'aéroport de Barcelone, qui devient une galerie commerciale extraordinaire, ou la Défense à Paris, qui devient un village de services sous l'impulsion de la RATP. Ces grands nœuds de réseau, c'est là où l'activité se passe, ou même la vie dans la ville se passe. Ce que les célèbres non-lieux de Marc Auger, bien sûr, ces endroits qui à la fois sont banalisés, qui sont censés être des lieux de transition et de transit, deviennent des lieux de vie et dessinent une nouvelle urbanité. L'histoire de la métropole, c'est l'accessibilité à ces nœuds. Et là, il y a une inégalité foncière dans l'accessibilité au réseau et aux nœuds de réseau. Troisième réflexion, rapide, il me reste 5 minutes. La métropole qui s'est construite avec les réseaux, n'existe plus que par les réseaux, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans la dépendance aux réseaux. Un élément important, c'est-à-dire de la métropole au gestionnaire des grands réseaux. On le voit dans plusieurs grandes métropoles, les gestionnaires, ceux qui maîtrisent les réseaux aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui les régulent, ceux qui les possèdent, lui, détiennent un pouvoir exorbitant, extraordinaire dans la grande métropole. Alors, ces réseaux, en même temps, remodèlent, font évoluer le modèle urbain, et une nouvelle forme de ville c'est celle qui s'étend, qui absorbe le urbain, qui absorbe les villes alentours, par exemple avec les effets TGV, on le voit bien dans l'agglomération parisienne, Le Mans ou ça 55 minutes où est absorbé progressivement et on peut vivre au Mans et travailler à Paris ou l'inverse si on souhaite. En général, c'est plutôt on vit plutôt au Mans à cause du prix du foncier. On voit aussi la vulnérabilité extrême de ces réseaux. Et, je l'ai dit, panne, grève, interruption, risque d'attentat, comme on l'a vu dans les métros de Londres, de Madrid ou de Paris. Et en même temps, l'ambivalence des réseaux.